Eh bien voilà, nous y sommes, il est 6h sur France Culture. Soyez les bienvenus, chers auditeurs, les petits matins commencent. Et il commence par les premiers titres de ce vendredi 30 septembre 2016. C'est avec vous Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Les adieux à Shimon Peres, les funérailles de l'ancien président d'Israël et prix Nobel de la paix auront lieu ce matin à Jérusalem sur le mont Herzl. Réunion exceptionnelle d'une centaine de dirigeants étrangers, dont le président américain Barack Obama, Bill Clinton, François Hollande, le prince Charles, mais aussi le président palestinien Mahmoud Abbas, seul représentant arabe à rendre hommage physiquement à Shimon Peres. Hier, ce sont près de 30 000 Israéliens qui ont défilé devant sa dépouille installée à la Knesset, le parlement de l'État hébreu, pour saluer l'un des artisans des accords d'Oslo avec les Palestiniens en 93 et le dernier représentant des pères fondateurs d'Israël. La paix, parfois si lointaine et inaccessible dans cette région du monde, en Syrie voisine, la guerre se poursuit et hier soir, Américains et Russes, parrains de l'opposition et du régime de Bachar al-Assad, étaient au bord de la rupture. La Maison-Blanche demande l'arrêt des bombardements sur la ville d'Alep notamment, dans une situation humanitaire catastrophique. Refus catégorique des Russes entrés dans le conflit il y a un an, jour pour jour. On ne sait pas encore ce qui a provoqué l'accident de train aux États-Unis près de New York, mais déjà des questions se posent sur l'état du réseau ferroviaire, des infrastructures privées d'investissement ces dernières années. Hier, donc, un train de banlieue a déraillé et fini sa course dans le hall de la gare très fréquentée de Hoboken. Le dernier bilan fait état d'un mort et de 114 blessés. En France, les nouvelles grandes régions seront financées par une part de la TVA. Le premier ministre Manuel Valls a répondu hier aux revendications des nouvelles entités. Elles ne veulent plus être sous perfusion financière de l'État. Il n'y aura donc plus de dotation globale, mais un transfert d'une fraction de la TVA. L'impression de l'avoir toujours connu en travaux après 20 ans de désamiantage et de réaménagement, l'université de Jussieu à Paris a été inaugurée hier par le président François Hollande. Un chantier d'1,7 milliard d'euros. Et puis le monde scientifique s'apprête à faire ses adieux aujourd'hui à Rosetta. La sonde européenne a entamé sa descente suicidaire pour se cracher à la mi-journée contre la comète Tchoury. Une fin flamboyante pour capturer au plus près les dernières photos de la comète et tenter d'apporter de nouvelles informations sur la formation du système solaire car ces comètes font partie des objets les plus primitifs.
Merci Amélie Perrier. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30 pour le journal complet de la rédaction.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Le temps s'arrête encore, l'air immobile, comme pour nous faire désirer un peu plus l'avenir, nous faire appeler le jour enfoui là-bas, tout au fond du ciel noir. Il faut creuser ensemble et s'y mettre dès 6h03 quand les petits matins commencent. Tu n'as rien vu à Calais. La référence durassienne pourrait apparaître hasardeuse à plus d'une oreille, mais le fait est que la question se pose. Alors qu'il est question que l'on entend parler d'une fermeture définitive du camp de réfugiés, on peut se poser cette question. A-t-on tout vu de Calais? Probablement non. Il y a même beaucoup de choses que l'on n'imagine pas. De ce lieu où des milliers de migrants attendent de pouvoir continuer leur périple dans les pires conditions qui soient en France, a-t-on tout vu de Calais? Ici, l'image qui nous apparaît est celle d'un grand calme, d'une grande solitude, une photo qui nous fait entendre comme un silence en plein de ce qu'on appelle la jungle. Quelques baraquements, cabanes et tentes apparaissent en noir et blanc tout en bas de la photo, comme une première couche de petits espaces confinés qui contrastent avec le ciel gris-blanc qui prend toute la place restante sur cette photo. Au centre, un arbuste mort se dresse au milieu des abris. À droite, au premier plan, un homme de dos, grosse veste en cuir, bonnet sur la tête, main dans les poches. C'est une photo prise le 6 mars dernier par Marie Magnin que l'on peut voir aujourd'hui dans le journal Libération. Une photo qui illustre l'article du géographe Gilles Fumet, Jungle de Calais, lieu de nulle part. Des mots se posent sur ce vide et ce silence que l'on perçoit au premier plan de l'image, nulle part. Que dirons-nous de ce lieu aux générations futures? Pourrons-nous encore le situer? Voudrons-nous le faire? À Calais, il y a quelques mois, nous circulions sur les routes boueuses des abords du camp avec une collègue reporter. Une serveuse rencontrée dans un bar du centre-ville de Calais avait accepté de nous y emmener sur la route. Elle nous explique qu'à l'emplacement de ce que l'on appelle maintenant la jungle, il y avait un centre de vacances pour enfants. C'est là qu'elle passait tous les étés. Elle nous en situait l'entrée, les vestiaires, les bâtiments et ses souvenirs d'enfance qui contrastaient avec ce paysage désolé que nous découvrions alors. Qu'y aura-t-il dans quelques décennies à la place de ces tentes, de ces baraquements? Pourrons-nous oublier cette histoire si facilement? Devons-nous l'oublier? C'est donc aujourd'hui la photographie d'un nulle part que notre image du jour nous présente. Ce même genre de sensation qui peut nous surprendre au réveil dans le noir, ces moments où dans un univers familier, nous nous demandons pourtant pendant quelques secondes où nous sommes tombés. Et loin du calme apparent de notre image, c'est d'un surgissement hors de la nuit dont il sera question à 6h26 dans les émois de François Angelier qui s'agite déjà et qui nous parlera du premier Zorro restauré et édité en DVD par Lobster Film. Mais avant cela, le grand écart stylistique et géographique continue puisque dans le Paso Doble, nous évoquons ce matin le nouveau volet de la vie d'Alan Ingram Cope, Martha et Alan, BD signé Emmanuel Guibert, ou l'histoire d'une amitié d'enfance entre le héros et une petite fille de son école, Martha Marshall. L'auteur Emmanuel Guibert est jusqu'à 6h25 l'invité de Toufi Kakem dans le Paso Doble des Petits Matins sur France Culture.
Paso Doble.
Paso Doble.
Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Emmanuel Guibert.
Bonjour Toufi Kakem.
Votre œuvre autour de la vie d'Alan Ingram Cope continue. Un nouvel ouvrage vient de sortir, Martha et Alan. Toujours bien sûr à l'association. Et cette fois, il s'agit des souvenirs de son premier amour, quand il avait 5 ans, dans la Californie rurale des années 30. Alan Ingram Cope, il avait déjà 70 ans quand vous l'avez rencontré il y a plus de 20 ans à l'île de Ré, où il vivait. Mais à quel moment, Emmanuel Guibert, vous est venue l'idée d'enregistrer ses mémoires et d'en faire une œuvre, aujourd'hui constituée de 5 romans graphiques, les 3 tomes de la guerre d'Alan, et puis il y a eu l'enfance d'Alan il y a 2 ans, et puis enfin, Martha et Alan qui vient de sortir. À quel moment?
Ah ben, on n'a pas perdu de temps. Comme disait Alan, on n'a pas jeté nos heures. Et dès le début, comme si on savait qu'on n'aurait pas beaucoup de temps, parce qu'on a eu que 5 ans pour être amis, on s'est mis au boulot et ça a consisté en effet à enregistrer ses souvenirs très rapidement. Je me souviens que je l'ai rencontré un mois de juin. On a dû passer une dizaine de jours ensemble à faire connaissance et je suis revenu en septembre pour les premiers enregistrements. Et ensuite...
C'est entre-temps où vous êtes...
Non,
c'était... que peut-être qu'avec la vie d'Alan, je vais pouvoir développer une histoire en roman graphique, en bande dessinée.
Non, c'était d'emblée.
D'emblée?
Ouais.
C'est-à-dire dans l'heure qui a suivi votre rencontre?
Le détail, évidemment, je pourrais les raconter, mais ça nous prendrait un peu trop de temps. Mais le fait est que assez rapidement, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être, on s'était vu 3 fois dans notre vie. On s'est retrouvés sur une plage tous les deux, on s'est baigné, et puis en sortant de l'eau, on a fait ce qu'on fait dans ces cas-là pour sécher, c'est-à-dire des allées et venues le long des vagues. Et il en a profité pour me raconter quelques épisodes de sa guerre. Et moi, j'écoutais en bouillant intérieurement, parce que j'étais très intéressé par ce que j'entendais. J'avais l'habitude depuis que j'étais adolescent, quand une conversation me plaisait pendant la journée, de rentrer chez moi et d'essayer de la garder chaude dans la tête pour pouvoir la recopier, faire une sorte de procès-verbal après coup de la conversation que j'avais eue. Et quand je l'ai entendu lui, je me suis rendu compte que ce serait pas possible, parce que ses conversations étaient trop singulières, sa façon de s'exprimer était trop particulière pour que je risque de la modifier ou de la détériorer un tant soit peu en mettant un mot pour un autre. Il me fallait rigoureusement ce qu'il avait dit. Et pour ça, il y avait le magnétophone. Donc je lui ai dit ce jour-là, sur cette plage, solennellement, « Cher Alan, voulez-vous, puisque je le vous voyais encore à l'époque, voulez-vous faire des bouquins avec moi ?» Et il a dit oui, très simplement, et on a mis le processus en marche instantanément. Quelques jours après, j'étais là avec mon magnétophone et on s'y est mis.
Voilà, et il savait que vous alliez faire donc cette œuvre.
Il ne savait pas, d'ailleurs il n'y croyait pas au début. Ouais. La seule chose qui s'est dite, c'est « ce gars est là, il m'écoute ». Moi je suis plutôt relativement solitaire et là j'ai affaire à quelqu'un, apparemment je sais pas, j'étais selon son goût, il m'aimait bien. Donc il s'est dit, il va venir passer du temps avec moi, pour ça il faut qu'on ait un alibi. Et peut-être que le fait de m'enregistrer fera que je vais pas juste le voir 2 jours dans ma vie, mais qu'éventuellement il reviendra. Je pense qu'il a dû se dire ça au début, il a dû se dire, c'est une petite construction qui démarre et qui nous permettra d'être côte à côte.
Et après la mort d'Alan Ingram Cope en 1999, avec l'ami Christian Rosset, vous retournez sur les lieux où il a vécu et où il vous recevait pour partager ses souvenirs. C'était pour un atelier de la création réalisé par Gilles Davidas et diffusé le 29 novembre 2011. Et sur place, Emmanuel Guibert, vous avez trouvé les mots les plus justes et pour décrire Alan Ingram Cobb et pour nous faire écouter, entendre sa voix. Extrait.
C'était un Américain pour les Européens et c'était devenu un Européen pour les Américains. Comme beaucoup d'exilés, il n'était pas vraiment, plus vraiment d'un bord et pas vraiment de l'autre. Et il avait d'Américain de prime abord pour les gens de l'île, sa pointe d'accent, ses blue jeans un peu tire-bouchonnant, ses grosses canadiennes l'hiver, ses chemises à carreaux.
Va à droite, parce que je crois que c'est tout droit.
Et puis il avait, j'imagine, d'Européens pour les Américains qui venaient le voir, toutes les habitudes de vie, toute la culture qui s'était forgée en vivant ici depuis l'âge de 22 ans, sans discontinuer.
Nous prenions souvent les petites routes. C'était très joli. Je voyais pour la première fois des paysages typiquement européens. Et les petits villages gris et tristes, mais quelquefois assez jolis. On voyait qu'ils pourraient être jolis s'ils arrivaient à se remettre de leurs expériences de la guerre. Et c'était un peu comme un livre d'histoire pour les enfants, pour moi. Nous avons un mot en anglais qui est « quaint ». Et tout était quaint et joli pour l'Américain que j'étais. Les routes étaient petites.
Donc en fait, ce 16 juin 1994, j'étais avec mon père et on montait tous les deux cette rue. Et c'est en arrivant là que je l'ai aperçu pour la première fois. Il était en train de scier du bois devant sa porte. Il avait posé une chèvre et puis il sciait son bois. Et il était torse nu, c'était un petit homme qui dégageait un peu une impression à la Picasso, espèce de torse assez costaud comme ça, puis des poils d'artichaut là sur la poitrine. Et je me suis approché de lui et je lui ai dit, enfin à vrai dire, je me suis approché de lui pour lui poser une question sur mon chemin, mais au fond, si je suis allé le voir, c'est parce que j'avais envie de passer un peu de temps dans cette maison et peut-être d'en savoir un peu plus. Et donc je lui ai dit, pardon monsieur, la rue de la République ou la place de la République, et on a discuté un bon quart d'heure en fait.
Emmanuel Guibert, il représente un témoin d'une période que vous aurez aimé vivre, cet Américain, Alan Ingram Cobb, où au-delà de ses souvenirs et du fait qu'il était ici en France, qu'il a traversé le XXe siècle avec ses guerres, c'était anecdotique, que c'était plus le personnage qui vous intéressait.
Je vous ai vu sourire en l'écoutant, j'ai l'impression que sa voix dit tout. Enfin, mm-hmm. Quand on rencontre quelqu'un qui a une voix comme ça, on s'en va pas, on reste. C'est beau à écouter. Il n'était pas en train de lire là, il était en train de me parler. Et c'est de la littérature, vous avez remarqué, c'est les mots viennent, ils sont imagés, on est avec lui, on voit ce qu'il raconte. Et on n'a pas envie de se carapater, on a envie de rester aussi longtemps que possible. Si la vie m'avait fait la grâce de me le conserver jusqu'ici, je serais toujours à côté de lui. 5 ans, ça n'a pas été énorme, enfin ça a été quand même pas mal pour accumuler beaucoup d'aperçus sur son existence, dit toujours sur ce ton, c'est-à-dire avec quelque chose d'à la fois poétique, pédagogique, naturel, simple... Encore une fois, imagé, j'insiste là-dessus, parce que les récits imagés, comme leur nom l'indique, font naître des images en vous. Et si on est dessinateur, évidemment, ça nous titille. Quand on voit quelque chose dans sa tête, on a envie de le mettre sur le papier. Et donc, toutes ces qualités faisaient de sa compagnie une compagnie très précieuse. S'il n'avait pas fait la guerre, s'il était né 3 ans plus tard, par exemple, parce qu'il suffit de ça pour ne pas faire une guerre, parfois. Lui, il a eu 18 ans en 43. S'il était né en 1929, il les aurait eus après-guerre, ses 18 ans. Il n'aurait pas été appelé. Je pense que si néanmoins il avait été plus ou moins le même homme, j'aurais fait des livres aussi avec lui. D'ailleurs, on a pu croire au début de mon travail que je faisais un récit de guerre. Le fait est que depuis deux livres maintenant, on se rend compte que je fais quelque chose d'un peu plus large, qui est une véritable biographie, enfin le récit de vie de quelqu'un, quoi. Et je m'intéresse tout autant à ces faits de guerre, si j'ose dire, qu'aux rencontres qu'il a pu faire dans une cour de récré ou à quelque autre épisode de son enfance ou de son grand âge.
Mais le fait qu'il soit américain, donc étranger, est-ce que son regard un peu décalé vous a attiré, vous a intéressé? Parce que vous dites, peut-être que je vais avoir des discussions que je pourrais pas avoir avec ma propre famille qui a connu la guerre ou pas. Avec lui, il y a une certaine liberté, une certaine distanciation, donc il pourra peut-être me parler autrement de cette histoire, autrement de ce siècle, autrement de ce pays, la France.
Ah oui, j'étais plein de tous ces espoirs-là d'emblée, parce que les toutes premières conversations m'avaient déjà indiqué qu'il en serait ainsi, que ça allait être comme ça. Et c'est pour ça que j'étais très confiant, plus que lui ne l'était sans doute au départ. Lui au début, il m'a fait à sa façon, parce que c'était quelqu'un de descendance un peu quaker, assez rigoureux. Donc, mais il m'a fait quand même une relative danse du ventre pour me garder. Et j'étais très attendri de le voir faire des efforts pour conquérir mon amitié qui lui était déjà acquise à l'époque. Il le savait pas parce que encore une fois, comme c'était pas un tendre, je lui disais pas tous les quatre matins. Ouais. Mais moi, je savais que je resterais avec lui jusqu'au bout et c'est ce que j'ai fait.
Alors là, dans le dernier livre, vous racontez son enfance, donc l'histoire de son premier amour, celle que vous dessinez dans le dernier volume, donc, qui a pour titre Martha et Alan. Donc on devine que c'est Martha, son premier amour. Alors, est-ce un récit structuré d'Alan Ingram Cobb ou c'est par bribes de discussions enregistrées que vous avez reconstitué cette histoire d'amour et d'enfance donc?
Non, je pense que globalement il me l'a raconté à peu près tel que vous la lisez. C'est pas un épisode très long, néanmoins c'est un épisode transversal dans sa vie. Ça commence quand il est petit et ça s'achève quand ils sont âgés, tous les deux, Martha et lui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu le caser dans les grandes tranches biographiques que j'ai découpées dans son existence, l'enfance, la guerre, etc. Parce que ça traverse tout ça. Et ça a nécessité donc un livre à part, quand bien même c'est une petite anecdote, elle est très ténue. Mais d'abord moi je pense que ça vaut le coup de se raconter des choses aussi importantes que la première fois où notre cœur a battu fort dans une cour de récréation. C'est absolument fondateur, cardinal pour nous. Et puis, s'il se trouve qu'en plus, il en advient quelque chose dans l'existence, en l'occurrence pas un mariage, mais d'une certaine manière des retrouvailles, des décennies après, ça finit par constituer...
Enfin, retrouvailles avec des guillemets. Hein.
Avec des guillemets, mais retrouvailles tout de même. On sait bien, dans l'existence, il y a une sorte de rupture possible qui est la mort avant la mort, c'est-à-dire que tout d'un coup, on n'entend plus parler de quelqu'un et on le reverra plus. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui réapparaissent au coin d'une rue ou à la faveur d'une lettre, et à ce moment-là, quelque chose peut reprendre, et c'est ce qui leur est arrivé.
Et pour travailler, vous aviez juste ce témoignage enregistré d'Alan Ingram Cobb, où il vous a donné autre chose, des photos, des lettres, des documents?
Il m'a très gentiment... très paternellement légué avant de disparaître, c'est quelques albums de photographie. Oui, j'en ai deux en l'occurrence, dans lesquels j'ai pu piocher quelques aspects de sa Californie des années 30. J'ai voyagé là-bas, donc j'ai fait pas mal de recherches. C'est un livre qui m'a pris une vingtaine d'années de gamberge, donc j'ai eu le temps au cours de ces 20 ans, même si j'étais pas en train à proprement parler de travailler dessus, de glaner à droite à gauche des choses dont je savais qu'à un moment ou un autre, elles pourraient s'insérer dans ce récit. Et quand on a 20 ans, on peut prendre toutes sortes de détails. C'est ça qui est amusant. Dans le fait de se donner du temps, c'est que on aura la première année l'amorce d'une architecture, la deuxième année quelques bagnoles qui iront bien dans le décor, la troisième année on trouvera un arbre, la quatrième année ceci, cela. Et ça finit par constituer un corpus qu'ensuite on réinjecte dans le livre. Quand le panier est plein, quoi.
Et contrairement aux trois tomes qui racontaient la guerre d'Alan et qui étaient en noir et blanc, ici tout est en couleur. Emmanuel Guibert, c'est un roman graphique, plus qu'une BD d'ailleurs, les cases disparaissent, il y a des dessins pleines pages, quand ce n'est pas des pleines doubles pages, quelques lignes pour la narration, très peu de dialogues, c'est une suite de petits tableaux, vous l'avez voulu ainsi?
Oui, si j'avais traité ça d'une manière traditionnelle, je pense qu'en bande dessinée ça aurait rempli l'équivalent peut-être d'une dizaine de pages. Donc il aurait fallu l'insérer dans un autre ensemble, alors que je voulais que cette histoire ait sa maison à elle, son livre. Donc c'est pour cette raison que je l'ai dilaté d'une certaine manière, en laissant plus de place aux images, et en laissant aussi, je pense, la capacité à certains mots de résonner dans le seul, seul dans une double page, par exemple.
Ouais.
Il est évident que quand on prend un mot et qu'on le met dans une double page tout seul, qui est un privilège qui est réservé soit à la bande dessinée, soit à la poésie, généralement, on lui donne un relief, je pense, qu'il n'a pas s'il est une patte de mouche parmi d'autres dans une page de roman. Donc, oui, toutes ces choses-là, ça plaidait pour le fait d'en faire un livre un peu à part. Oui.
Est-ce que votre travail a changé depuis la mort d'Alan Ingram Cobb ?
Oui, dans la mesure où je ne peux plus décrocher mon téléphone pour lui demander tel ou tel détail sur ce qu'il a vécu. Ça, c'est évidemment quelque chose qui continue à me cuire aujourd'hui. J'aimerais bien lui dire est-ce qu'il pleuvait ce jour-là ? Mais je ne sais pas.
Il les voyait les dessins avant la publication ?
Ah oui, tout ce qu'il a pu voir, c'est-à-dire les trois quarts du premier volume, évidemment, il l'a vu. C'était même très important. Vous imaginez un homme malade et qui est au seuil de la mort, s'il voit arriver des planches sur lesquelles il a 20 ans et il est en train de découvrir l'existence, ça dure ce que ça dure. Parfois, ça n'excédait pas un quart d'heure, mais pendant un quart d'heure, quand il voyait ça, il se regonflait.
Eh ben, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans Martha et Alan, c'est qu'on voit bien l'absence d'Alan. Il y a quelque chose de très nostalgique dans votre façon de raconter cet amour. Il y a sans doute beaucoup d'influence, vous qui avez beaucoup de culture, Emmanuel Guibert. Moi, j'ai retrouvé un peu d'Edward Hopper dans vos dessins. Il y a aussi, à la fin, tout à la fin, un côté Caspar David Friedrich, pour le peintre du sublime du XVIIIe siècle. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces deux références ? Est-ce qu'il y a eu d'autres références qui vous ont accompagné ?
Alors là, vous m'attribuez des choses évidemment à la fois magnifiques et écrasantes. Il est évident qu'on est fabriqué de toutes les peintures et de tous les paysages qu'on a vus. La vie imite l'art, comme disait Oscar Wilde. Donc quand on regarde un paysage, on voit des peintures qu'on a vues dans le passé. Quand on voit des peintures, on y met des paysages qu'on a vus dans le passé. Moi, je suis évidemment fabriqué de tout ça. Je me retiens pas de temps en temps de mettre des choses qui, en effet, peuvent s'apparenter un peu à l'hommage ou au clin d'œil. Là, dans ce livre-là, je pense que j'ai surtout essayé de le mettre... Alors, soit les lieux que je représente sont vrais. Ces endroits que j'ai retrouvés. Donc, la maison de Martha, c'est la maison de Martha. J'avais l'adresse, donc j'ai pu la représenter telle qu'elle est. Soit je l'ai... La plage sur laquelle on voit Alan se promener à la fin, c'est justement cette plage sur laquelle on s'est baigné, lui et moi. C'est le long de ces vagues.
C'est sublime, on peut le dire.
Qui m'a raconté ses premières histoires. Donc, vous imaginez l'émotion que j'ai eue à le représenter là. Parce qu'il est évident que le faire retourner sur une plage où on a été tellement heureux tous les deux, c'est un privilège limité du dessin, mais quand même, ça existe.
Autre grande émotion en lisant justement Martha et Alan, c'est cette église de Pasadena où se déroulent plusieurs scènes, les fêtes religieuses. Alors, ce foisonnement de détails, cette précision du trait, avec toutes les couleurs du jour, hein. Il y a même des scènes de nuit. Est-ce le fruit d'un peu de documentation et de beaucoup d'imagination, ou vous êtes allé sur place et vous avez retrouvé cette église ?
J'ai retrouvé cette église, sauf qu'elle n'était plus là. Elle a été démolie en 1974 par un tremblement de terre.
Imaginez.
Donc, je me suis bien documenté. J'ai trouvé diverses sources iconographiques pour pouvoir la représenter sous les angles qui m'intéressaient. J'ai brodé un peu pour certains aspects de l'intérieur. Enfin, globalement, c'est aussi assez fidèle à ce qu'était cette église dans les années 30. Et ce qui m'importe, c'est d'abord de me donner à moi-même l'impression de marcher un peu sur ses traces.
Gently, sweet Afton, among thy green blades. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Thou green-crested lapwing, thy screaming forbear. I charge thee disturb not my slumbering fair.
Emmanuel Guibert et les souvenirs d'Alan Ingram Cobb, son dernier livre paru, Martha et Alan, ou l'histoire du premier amour d'Alan, comment il est devenu, ce qu'il est devenu. Ils ont 5 ans au début du livre, ils se perdent de vue très vite, mais chacun a gardé le souvenir de cet amour, de cette histoire. C'est ce qu'on apprendra à la fin du livre. Est-ce qu'il y aura d'autres livres autour d'Alan, Emmanuel Guibert ?
Si tout va bien, nombreux, oui. Oui. Je dois consacrer un bouquin à son adolescence, qui sera un gros livre, puisqu'il va combler le vide qui existe à l'heure actuelle entre son enfance, qui s'achève à 11 ans, et la guerre qui commence à 18. Donc il y a 7 ans qui restent à raconter. Et puis ensuite, si tout va bien, j'ouvrirai un second cycle de récits sur lui, qui consistera à prendre la parole et à dire l'homme que j'ai rencontré, puisque pour l'instant, je suis encore dans une période de service, si j'ose dire, c'est-à-dire que je me suis mis au service de son récit et de la nécessité où je suis de mettre à l'abri ces choses précieuses qu'il m'a dites.
Emmanuel Guibert, merci pour le dessin que vous nous laissez, qu'on peut retrouver en passant par franceculture.fr à la page de l'émission Pasodable. Et puis, merci de m'avoir laissé ce livre. Pourquoi vous me le conseillez, Emmanuel Guibert ?
Alors, tout de suite, je vous ai apporté « L'homme qui a sauvé Londres » de Georges Martelly, qui raconte une histoire absolument exceptionnelle et totalement méconnue en France, celle d'un homme qui a tenu entre ses mains une partie du sort de la Seconde Guerre mondiale. C'est un de nos résistants les plus courageux, les plus intelligents, les plus pugnaces. Il s'appelait Michel Hollard. Il a eu un parcours, pour le comprendre, ce parcours, il faut lire ce livre, parce que ce parcours est tellement aventureux, riche de tellement d'anecdotes, qu'il faut donc lire les quelques 300 pages que compte ce livre pour être pénétré de l'admiration qui m'a saisi moi quand j'ai lu ce bouquin, qui a vraiment changé ma vie. J'ai plus une rage de dents maintenant sans penser à Michel Hollard. Chaque fois que j'ai un problème, je pense à lui. C'est le genre de personnage dont on a besoin dans notre existence parce qu'il nous aide à nous tenir droit. Donc je conseille vraiment à tout le monde, très ardemment, L'homme qui a sauvé Londres, Michel Hollard, le héros méconnu de Georges Martelly, c'est aux éditions des Arènes. Ça vient juste de sortir.
Bonne journée, merci d'être venu.
Et merci à Toufik Hakem et à Thomas Duterre qui a réalisé cet entretien que vous pouvez réécouter, podcaster sur notre site franceculture.fr à la page des Petits Matins. Et pendant ce temps, François Angeli a enfourché sa monture et voilà. Se tient prêt. Il est 6h26 sur France Culture.
Les émois, François Angeli.
Oui, parce que vous revenez, cher François, sur ce Zorro premier du nom. Signe de Zorro, film de 1920 réalisé par Fred Niblo et que réédite Lobster Film.
Tout à fait. Alors, on continue dans la mythologie américaine, mais là, on passe donc de Alan à Zorro. Deux coffrets, deux DVD avec donc ce signe de Zorro, le signe de Zorro de 1920 et puis le Don Q, fils de Zorro de 1925. Alors, n'en déplaise à Alain Delon, Antonio Banderas, Anthony Hopkins ou Guy Williams ou Tyrone Power, il n'y a qu'un seul Zorro, c'est Douglas Fairbank. Alors, on revient un peu sur l'histoire de Zorro. Zorro est écrit en 1919 par un auteur de pulp qui s'appelait Johnson McCulley dans un roman qui s'appelait Le Fléau de Capistrano. Succès instantané, énorme, et évidemment, Hollywood s'en empare. Et quelle est la personne la plus adaptée pour incarner ce justicier, ce Robin des Sierras, qui est un mélange un peu curieux entre le mouron rouge de la baronne Orksi et puis des défenseurs du pauvre et de la veuve et de l'orphelin? Eh bien, c'est évidemment Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, en 1920, il est au zénith de sa gloire, il a déjà tourné Les Trois Mousquetaires, donc il est parfaitement formaté pour faire ce Zorro. Il jouera plus tard, dans les années qui suivent, d'autres personnages qui le rendront légendaire, comme D'Artagnan, le voleur de Bagdad, Robin des Bois, là aussi, Ben Hur ou le pirate noir. Alors, avec cette marque de Zorro, trois éléments clés se détachent, qu'il ne faut pas perdre de vue. D'abord, c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'aventure muet, faut le dire. La copie livrée par, le bonus livré par Lobster est tout à fait formidable. Il y a trois éléments essentiels. D'abord, c'est un film totalement schizophrénique, puisque autant quand on voit Guy Williams dans les feuilletons qu'on a tous regardés de Zorro de Walt Disney, il n'y a pas tellement d'écart entre le personnage, je dirais, du jour et de la nuit, entre Zorro et Don Diego de la Vega. Il y a vraiment très très peu de choses, au point même qu'on se demande comment on n'arrive pas à le repérer, puisque il est très semblable. Là, au contraire, pas du tout. Le Diego de la Vega de Fairbank est un personnage mou, veule, impuissant, qui se traîne dans la vie, qui s'amuse à jouer avec des ombres chinoises, avec des serviettes de table. C'est une espèce de crétin, de fils de famille dégénéré. Et à côté, on a un Zorro absolument triomphant, nocturne, qui bondit, qui ricoche aux quatre coins du décor. Et tout le film, ça va être de fusionner les deux, puisqu'à la fin, Don Diego de la Vega se met à se part des qualités épiques de Zorro. Il y a l'autre aspect qui est assez bolivarien, puisqu'effectivement, Zorro est un héros de gauche qui défend tous les persécutés contre le pouvoir colonial et le pouvoir central. Et puis, c'est un super-héros. C'est sûrement le premier super-héros, puisqu'il a à la fois la double identité, Diego de la Vega, Zorro, un costume spécifique, et puis bon, bah c'est Fairbank. Donc, c'est déjà être Fairbank est un super-pouvoir. C'est chez Lobster Film, coffret 2 DVD, la marque de Zorro. Formidable.
Merci beaucoup, François. On épargnera à nos auditeurs ce que vos vocalises que vous faisiez pendant le passo doblé sur générique.
Ça, c'est des souvenirs de générique quand j'étais petit.
Merci à vous. 6h29 sur France Culture, les petits matins se poursuivent avec dans une minute le journal présenté par Amélie Perrier. Puis à 6h40, le journal des idées de Jacques Munier, journal de veille de week-end, Jacques.
Oui, je vais vous faire un éloge de l'ivresse. Ce sera un éloge paradoxal à déguster avec modération.
Merci. À 6h45, les enjeux internationaux nous mèneront en Hongrie sur la question politique, de la politique migratoire que veut mettre en place le Premier ministre Viktor Orban. Et enfin, à 6h57, Guillaume Erner fera son entrée. Les matins se pencheront sur le bilan des années Obama dans le domaine du racisme et des inégalités.
France Culture présente Oscar Wilde, l'impertinent absolu. Le grand écrivain irlandais, qui fut un parfait francophone et ardent francophile, est mis à l'honneur au Petit Palais. Découvrez une exposition qui retrace la vie et l'œuvre d'Oscar Wilde à travers un ensemble de plus de 200 pièces rassemblant documents exceptionnels, manuscrits, photographies, dessins, caricatures, effets personnels et tableaux. Oscar Wilde, l'impertinent absolu, jusqu'au 15 janvier au Petit Palais à Paris. Un partenariat France Culture avec France Télévisions.
Merci de vous réveiller sur France Culture, il est 6h30. Le journal, Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Ils ont été plus de 30 000 Israéliens à se recueillir hier devant le cercueil de Shimon Peres, exposé à la Knesset, le Parlement israélien. Aujourd'hui, place aux funérailles officielles avec une centaine de dirigeants du monde entier présents à Jérusalem. Les présidents américains, français, allemands, le prince Charles, mais aussi le président palestinien Mahmoud Abbas, seul représentant a priori du monde arabe. Car si Shimon Peres est décrit aujourd'hui comme un défenseur infatigable du camp de la paix, les voisins de l'État hébreu gardent en mémoire des épisodes plus sombres. Au Liban, par exemple, on maintient une certaine distance. Laure Stéphane nous appelle de Beyrouth.
Il n'y aura pas, bien sûr, de délégation libanaise aux funérailles de Shimon Peres. D'abord, pour la raison évidente que le Liban et Israël sont techniquement en état de guerre, les contacts officiels sont indirects. Ils se font à travers l'intermédiaire de la force de l'ONU déployée dans le sud du pays du Cèdre pour contrôler la frontière. Ensuite, parce que vu de Beyrouth, Shimon Peres n'est pas l'homme de paix célébré en Occident. Son nom est associé au bombardement de Canaan en 1996, un épisode qualifié au Liban de massacre. Dans cette bourgade du sud du pays, plus de 100 civils ont été tués par des frappes israéliennes lors de l'opération Raisin de la colère lancée par l'État hébreu. Shimon Peres était alors Premier ministre. Peu après les faits, une enquête de l'ONU avait affirmé qu'il était très peu probable que le bombardement ait été le fruit d'une erreur. À l'annonce de la mort de l'ancien président israélien, les rares réactions officielles au Liban ont été cinglantes. Un ministre a dénoncé, je cite, « les crimes de Shimon Peres contre les Arabes et les Palestiniens ». Quant aux médias locaux, plusieurs d'entre eux dépeignent l'ancien chef d'État comme, je cite à nouveau, « l'auteur de Cana ou le parrain de la colonisation en Cisjordanie ».
La guerre en Syrie, cette fois, et les relations toujours plus tendues entre les Russes et les Américains, soutien respectif du régime de Bachar al-Assad et de l'opposition. Hier soir, Washington était sur le point de rompre la coopération diplomatique si les bombardements ne cessaient pas au-dessus de la ville martyre d'Alep, cible des frappes du pouvoir syrien et des Russes. Avoir intégré les rangs des djihadistes en Syrie, puis en revenir, c'est l'histoire d'une jeune Belge, Laura Passoni. Elle a un jour tout quitté, avec son fils de 4 ans, pour y suivre son nouveau mari. Une fois sur place en Syrie, elle déchante et supplie ses parents de l'aider à rentrer en Belgique. Condamnée par la justice, aujourd'hui, elle veut faire de la prévention et raconte son histoire dans un livre, « Au cœur de Daesh, avec mon fils ». Lakshmi Lotha l'a rencontré.
Les recruteurs du groupe État islamique ont profité de ma faiblesse à l'époque, explique Laura Passoni. Il y a 2 ans, fragilisée par une rupture amoureuse, elle rêve d'une vie meilleure en Syrie. Des vidéos de propagande et une rencontre avec son futur mari sur Facebook la conduisent à franchir le pas avec son fils de 4 ans.
Dû à ma déception amoureuse, j'ai voulu partir, on m'a vendu du rêve, le recruteur m'a vendu du rêve. Je voulais aider le peuple syrien, je voulais être infirmière et je pensais que là-bas c'était vraiment pour les aider et que les djihadistes étaient des héros. Donc je me suis dit, après ma rupture aussi, je reprends ma vie à zéro là-bas.
Très vite, la jeune femme enceinte d'un deuxième enfant déchante et appelle ses parents pour l'aider à rentrer en Belgique.
Tout ce qu'il m'avait promis, c'était faux. Et puis moi, c'est beaucoup mon fils, en fait. Je voulais pas qu'il devienne terroriste, je voulais pas qu'il fasse un attentat suicide. Et puis tout ce qui est aussi moi, ma liberté, l'hygiène, on meurt de faim, je peux pas sortir quand je veux. On était vraiment libre qu'à procréer, à faire des enfants, à se taire. Et c'était pas la vie que je voulais.
Elle dit vivre désormais un islam apaisé. Ce livre, c'est aussi pour ses fils qu'elle l'a écrit.
Donc maintenant, mon fils le sait que je fais un livre, hein, parce que j'en ai demandé son avis, parce que je voulais savoir ce qu'il en pense. Quand il me voit dans le journal ou à la télé, il est très fier de sa maman parce qu'il dit que voilà, c'est pour le bien.
Vous lui avez expliqué, donc?
À mon grand, oui, j'ai tout expliqué.
Laura Passoni pense que la déradicalisation est possible. Elle souhaite à présent faire de la prévention pour dissuader d'autres jeunes femmes de partir en Syrie.
6h34 sur France Culture, la suite du journal avec vous Amélie Perrier et la COP21 qui porte ses fruits. En tout cas, jamais un accord sur le climat n'avait été sur le point d'être ratifié aussi rapidement.
Oui, les ministres de l'environnement européen ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles pour se mettre d'accord sur la ratification de l'accord de Paris. Le texte pourrait ensuite passer au Parlement européen mardi prochain. Une ratification in extremis pour l'Europe pour être en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique. Anne-Laure Barral.
Même si la Pologne traîne encore des pieds parce qu'elle ne veut pas réduire sa consommation de charbon, la ministre de l'Environnement et présidente de la COP21, Ségolène Royal, estime que cette réunion s'annonce sous les meilleurs auspices. Les ministres, c'est vrai, ont trouvé un tour de passe-passe pour ratifier l'accord, d'abord au niveau européen, avant que tous les parlements nationaux des États membres ne l'aient fait. Il faut dire que ce serait un comble que l'Europe ne monte pas dans le train des champions du climat. Elle, qui a toujours été la plus ambitieuse, c'est la seule à respecter les engagements du protocole de Kyoto. Pourtant, aujourd'hui, certains Européens laisseraient bien la main aux États-Unis et à la Chine. Même l'Inde, plutôt réticente dans les négociations, doit ratifier l'accord de Paris dans 2 jours. Si les ministres européens s'entendent et que le Parlement ratifie, le compte est bon. L'accord sera approuvé par plus de 55 pays, représentant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Ouf, il était moins une. La date limite pour le faire, c'est le 7 octobre.
Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert hier le Mondial de l'automobile à Paris, journée pour les professionnels. Le public sera accueilli à partir de demain. En vedette cette année, les voitures propres, les véhicules électriques, festival de nouveautés et de prototypes pour un secteur en plein rebond. Après la profonde crise entre 2008 et 2013, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de plus de 6% cette année en France et de plus de 8% dans l'Union européenne. C'est un autre moyen de déplacement propre, mais là aussi encore cher, le train et en particulier les lignes à grande vitesse. Un groupe de sénateurs a lancé l'idée hier de geler le financement des nouvelles lignes rapides en France pendant au moins 15 ans pour relever les comptes de la SNCF. La dette ferroviaire dépasse aujourd'hui les 52 milliards d'euros. Alors les projets entre Bordeaux et Toulouse, entre Poitiers et Limoges ou encore entre Montpellier et Perpignan représenteraient des investissements excessifs. Écoutez l'avis du professeur Yves Crozet, auditionné par la commission des sénateurs.
Ce sont des gains de temps, mais quand les trafics sont de modeste importance, eh bien, les gains des usagers ne couvrent pas les coûts de construction. Aujourd'hui, beaucoup d'élus continuent à rêver d'un tunnel, d'une autoroute, d'un TGV. Beaucoup d'élus ont encore la nostalgie des schémas directeurs, la période des années 70. Mais à l'époque, quand on faisait un projet de TGV, il était financé puisque c'était la dette de la SNCF qui prenait ce projet. Aujourd'hui, quand on fait des projets de LGV, il n'y a pas d'argent en face. À cause de ce renouvellement, la dette de SNCF Réseau augmente de 1,5 à 2 milliards par an. Donc il faut d'abord régler le problème de cette dette. Mais il faut que ces ressources servent d'abord à la régénération et au renouvellement du réseau et pas à lancer des projets dont la rentabilité est très faible. Il faut mettre fin à ce processus de fuite en avant dans les infrastructures et il faut mettre en face à la fois un budget et des projets pour lesquels on a l'argent. Le rapport du Sénat ne fait que constater le fait que nous n'avons pas les moyens de réaliser les 4000 km de lignes TGV qui étaient inscrites dans le Grenelle de l'environnement. On n'empêchera pas les grands élus nationaux de vouloir arroser leur territoire avec un TGV, avec un tunnel. Le problème, c'est de savoir quelle discipline budgétaire on met pour empêcher ce genre de folie.
Le spécialiste de l'économie des transports, Yves Crozet, professeur à l'Université de Lyon, il répondait à Hélène Masquelier. Le temps de ce vendredi, l'automne arrive, au moins sur la moitié nord, avec de la pluie. Au sud, ça reste ensoleillé. Les températures ce matin, elles vont de 10 à 14 degrés. Cet après-midi, on prévoit 18 à Paris, 19 degrés à Calais et à Quimper, 25 à Lyon et à Bastia, 25 aussi à Marseille et 26 degrés à Biarritz. Bientôt 6h38 sur France Culture. Vendredi, la dernière de la semaine. Et oui, les prochaines infos, c'est à 7h avec Catherine Dutu. Mais tout de suite, les petits matins continuent de vous réveiller avec Émilie Chaudet et votre revue de presse, Émilie.
Merci beaucoup, Amélie. Et oui, à la veille de l'ouverture du Mondial de l'automobile, c'est la voiture qui s'affiche en une de la plupart de vos journaux ce matin. Sud-Ouest titre sur le futur. C'est déjà demain, un secteur qui se porte bien, mais qui doit faire face à de nombreux défis environnementaux, surtout selon le journal, mais pas que. Pour l'humanité, la voiture se cherche tout toujours un avenir. Ce mondial de l'auto a des allures de fin d'époque, selon les mots du journal. Ces enjeux environnementaux, les nouveaux modes de déplacement, les ruptures technologiques imposent aux constructeurs de se réinventer, peut-on lire en une du journal. Mais vers quoi? Ce n'est pas Carlos Ghosn qui donnera la réponse. Le PDG de Renault-Nissan, interviewé par les Échos, qui titre sur une de ses déclarations « Devenir numéro un mondial est impossible. Les champs d'investissement se multiplient dans le secteur et créent, selon les termes du journal, un mur de la recherche et développement pour les années à venir. » À ce titre, Libération fait sa une sur la voiture autonome. Voiture autonome annoncée comme la star de ce mondial, mais aussi l'objet de toutes les inquiétudes qui éclipsent, selon Libé, la prouesse technologique, que ce soit les craintes de piratage à distance ou la question des responsabilités en cas d'accident. Le sans-pilote, mode automatique, impression plutôt familière sur le plan politique et encore plus en cette période de course électorale qui commence. Après Nicolas Sarkozy sur la question de l'identité, François Fillon prend position en une du Figaro, le journal qui ne retient que ce verbatim. Il y a un problème en France lié à l'islam. Le candidat à la primaire à droite qui en fait dit dans le corps de l'interview, je cite, « Pour régler aujourd'hui un problème qui ne concerne que la montée de l'intégrisme musulman, on est tenté de s'attaquer à la liberté religieuse. Depuis l'attentat de Nice, certains demandent l'interdiction de tous les signes religieux dans l'espace public. Là, je dis stop. » Fin de citation. Au-delà de ces propos bien plus nuancés donc que ne le laisse supposer la une du journal, il y a cette volonté de se positionner à droite par rapport à la question du religieux, de l'identité, ce que déplore l'autre candidate à la primaire, Nathalie Kosciusko-Morizet, en une du Monde. Une droite, dit-elle, qui joue avec les peurs. Du sans-pilote au pilote plutôt éméché, il n'y a qu'un pas que nous ne vous invitons pas forcément à franchir. Et pourtant, c'est le pas que nous faisons bien involontairement ce matin avec Jacques Munier. Il est 6h40 sur France Culture.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Et oui, il est 6h40, mais pour vous, Jacques, il n'y a pas d'heure pour s'enthousiasmer et faire l'éloge de l'ivresse, surtout quand on est vendredi.
Oui, voilà, ça inspire le dithyrambe, ça enthousiasme la fibre bachique. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot enthousiasme, être habité par un dieu. Chacun peut choisir le sien. Enivrez-vous, disait Baudelaire, de vin, de poésie ou de vertu. Pour moi, ce sera Dionysos, le dieu des vignerons. Et si l'on en croit la quinzaine littéraire, celui des écrivains aussi, rassemblé sous la bannière de l'ivresse, il décline les misérables miracles de l'alcool qui ajoute à l'ivresse de la transgression et au plaisir du sexe chez l'écrivaine américaine Jamie Attenberg et son personnage de Mazie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés, laquelle donne son titre au roman décrivant flasques et frasques sous la prohibition. Frédéric Fioloff évoque le vin râpeux où l'on jette sa fatigue avec sa propre peau, un vin de pauvre, de taiseux, de travailleur harassé, celui du père que raconte le récit de Christophe Sanchez, un homme rivé au labeur et qui est passé sans se voir. De cette ivresse oublieuse, on passe naturellement à celle des mots, une décantation que n'a pas manqué de célébrer le poète comme Verlaine lorsqu'il parle de l'honnête vers ou rit un peu d'oubli divin. Le glossaire médiéval est à cet égard éloquent, voire lyrique, en tout cas imagé. Avoir le gosier en pente ou la langue comme une éponge est réputé favorable à la sociabilité de la palabre. Quand il avait bien bu du vin, il ne parlait plus qu'en latin, nous dit-on de l'un des protagonistes des Contes de Canterbury. Dans la dernière livraison de la revue de la NRF, elle aussi placée sous le signe des ivresses, Daniel Alexandre Bidon évoque celle du Moyen-Âge, ni moyen ni vraiment âgé sous cet angle. À l'époque, la France était couverte de vignobles grâce au progrès de la viticulture qui n'encourageait pas ceux de la sobriété, l'antonyme de l'ébriété. L'eau était le plus souvent polluée, on se tournait vers les boissons fermentées. Le vin, à faible teneur en alcool, environ 7 degrés, était consommé à raison de 3 litres par jour et par personne. Une bonne base. Hein. Et même la médecine recommandait à dose prescrite l'enivrement profond comme une purgation de l'organisme jusqu'à en vomir. Traitement applicable aux grandes douleurs ou en cas d'humeur corrompue, c'est-à-dire d'infection.
C'est toujours bon à savoir.
Oui, maître bouteille et maître ivrogne menaient la danse chez les juifs lors de la fête de Pourim.
Pas de répit, Jacques, au siècle des Lumières dans ce domaine, dans le Paris populaire raconté par Arlette Farge.
Oui, voilà, c'est dans ce numéro de la revue de la NRF. Des régiments d'ivrognes rentrent des faubourgs dans la ville, chancelant, battant la muraille. S'alarme Louis-Sébastien Mercier. Les cabarets borgnes résonnent des rires et de la misère de tout un petit peuple qui s'accole aux vases de plomb remplis de vin. S'il y a du désordre, survient la garde qui remet quelques calmes, puis s'attable elle-même pour boire jusqu'à plus soif. Dans les procès-verbaux, l'ivresse publique et manifeste ne tient que peu de place, finalement, s'il n'y a de sang versé. À l'époque, elle est considérée comme une circonstance atténuante, contrairement à ce qui se passe de nos jours. Pour Daniel Roche, dans Le Peuple de Paris, l'ivresse est une façon de vivre, un mode de sociabilité, voire de revanche et de résistance. L'affirmation d'un état spécifiquement populaire, tourné contre ce qu'il considère comme injuste, entre consolation et oubli, le meilleur moyen de porter une revendication collective.
Je sens une pointe de nostalgie dans votre voix, Jacques. Et puis au siècle suivant, il est question de ce que Baudelaire appelait le canon du poète, le vin des chiffonniers.
Oui, le chiffonnier ivre, hochant la tête et butant sur les pavés, comme les jeunes poètes qui passent toute leur journée à errer, à chercher des rimes. Les chansonniers ont également célébré cette figure de l'ivresse, créatrice et libertaire. La somptueuse et nouvelle revue 12 degrés 5, des raisins et des hommes, leur ouvre ses pages dans sa livraison inaugurale. La chanson à boire s'avère paradoxalement une manière festive et non contraignante de cadrer l'ivresse collective en lui donnant un exutoire et une sublimation musicale. Béranger est ici le modèle si populaire en son temps qu'il fut élu à l'Assemblée sans même s'être porté candidat. À votre santé. Alors, dans cette revue, nouvelle revue 12 degrés 5 qui s'introduisent comme le jajazine, on trouve aussi des reportages, dégustations, réflexions. Le cheval de trait, saviez-vous, au garrot imposant et pouvant atteindre les 950 kilos, grâce comprise, quand il caracole dans les champs, revient dans les rangs de vignes de la Côte de Nuit, sur la commune de Vaune-Romanée, dans le domaine de la Romanée-Conti, chez Abel-Bizoire. Son moindre avantage n'est pas celui de lutter contre le tassement des sols au passage de la charrue. Et puis choisir un vin en fonction d'un plat, je vous laisse deviner, Émilie, celui qui s'accorde le mieux aux mousselines de volaille au morille.
Ça, c'est... Si vous me reposez la question quelques heures plus tard, je serai plus à même de vous répondre. Merci Jacques Munier pour ce journal des idées pré-week-end. Oui. Je vous le souhaite très bon Jacques et à lundi. Merci. 6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Les enjeux internationaux aujourd'hui consacrés au référendum sur les quotas obligatoires de migrants en Hongrie. Que veut le Premier ministre Viktor Orban? C'est la question que vous posez ce matin, Xavier Martinet.
Bonjour, Henrik Hansen, politologue, donc professeur à l'université Andrássy en langue allemande de Budapest. Merci d'être au téléphone avec nous.
Bonjour Monsieur Martinet.
Merci beaucoup encore. Dans deux jours, alors dimanche, ce seront 8 300 000 électeurs hongrois qui vont voter par référendum sur cette question posée par le gouvernement. Voulez-vous que l'Union européenne décrète une relocalisation obligatoire de citoyens non hongrois en Hongrie sans l'approbation du Parlement hongrois? Autant dire que le lexique et le ton sont donnés. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban souhaite par ce vote entériner la politique migratoire qu'il mène depuis l'année dernière, puisque face à l'afflux de réfugiés au cours de l'été 2015, la Hongrie avait construit une clôture de barbelés. Elle en construit en ce moment une deuxième et elle veut désormais accroître sa marge de manœuvre un peu sur tous les plans. L'enjeu européen, lui, est assez clair. Il s'agit d'affaiblir la politique des quotas décidée par l'UE en décembre 2014. D'ailleurs, cette Union européenne est apparue assez dispersée encore face à cette question au sommet de Bratislava. On pourra en reparler. Et puis, il y a un enjeu intérieur également dont il faudra parler. Enjeu de relégitimation pour le Fidesz, le parti au pouvoir depuis 2010. Puisque les prochaines élections législatives doivent avoir lieu l'année prochaine. Alors j'ajoute juste que la pression des organisations non gouvernementales et de l'Union européenne s'est accrue cette année, que le ton est même monté ce mois-ci. Le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois a réclamé l'exclusion temporaire de la Hongrie de l'Union européenne. Viktor Orban a qualifié, lui, certains dirigeants européens de nihilistes. En tout cas, un résultat pour le moment est certain. En 2015, les migrants étaient 10 000 par jour, on s'en souvient, à passer la frontière hongroise. Ils ne le sont désormais plus que 30 par jour autorisés. Alors, quels effets nouveaux attendre de ce vote et que signifie-t-il pour le parti au pouvoir et pour l'Union européenne? Peut-être on pourrait commencer sur la définition des enjeux, enjeux intérieurs, enjeux extérieurs. Henrik Hansen, c'est finalement difficile de décider. En Hongrie, on dit beaucoup que c'est l'enjeu intérieur qui prime cette élection qui approche finalement.
Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, parce que vous avez mentionné Hasselborn, je crois que ça, ce n'est pas le ton qu'on doit accepter dans l'Union européenne. Il faut d'abord chercher à comprendre les partenaires en Europe. Donc, il est très important de voir aussi les enjeux dans la politique intérieure en Hongrie. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une extrême droite très forte en Hongrie. Et le Fidesz, il fait face à 20% d'électeurs qui ont voté dans la dernière élection du Parlement pour l'extrême droite Jobbik. Alors maintenant, Orban, il est bon disciple, bon élève du Parti chrétien social en Bavière. Il est d'ailleurs bon ami du ministre-président Seehofer de la Bavière. Il suit la devise de ce parti qui est « À notre droite, il n'y a plus que le mur ». Donc, il cherche à réduire l'attractivité du Jobbik. Alors, si maintenant on veut juger cette politique, il y a deux côtés. Parce que d'un côté, il y a dans tous les pays qui étaient dominés par l'Union soviétique jusqu'à 89, un désir de s'assurer de leur identité. Il faut voir que toutes les discussions que nous avons eues dans les pays occidentaux de l'Europe, ces discussions, ils ne les avaient pas en Europe de l'Est. Donc, maintenant, il y a des discours d'identité qui sont plus ou moins nouveaux en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie et en Tchéquie aussi.
Donc, ce que vous nous dites en parlant du Jobbik, donc le parti d'extrême droite qui est en train de monter face au Fidesz, le parti conservateur, on va dire, qui s'affaiblit, c'est que Orban joue la carte, disons, de l'identité nationale, ou plutôt joue la carte nationaliste et anti-réfugiés, quoi.
Oui, tout à fait. Et ça vise d'un côté contre Jobbik, mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a, au niveau de la politique intérieure, il y a un certain nombre de problèmes, comme par exemple des cas de corruption. Et bien sûr, dès qu'il peut parler des réfugiés, il peut faire appel aux craintes au sein d'une partie de la population. Et ça aussi, ça peut dévier des problèmes qu'il a dans d'autres parties. Et là, il y a maintenant le problème, parce que d'un côté, j'ai dit, il faut chercher à comprendre, mais de l'autre côté, il y a aussi le côté que Orban, il se sert, comme Amnesty International l'a dit, d'une rhétorique empoisonnée. Et c'est effectivement le cas, parce que la stratégie actuelle d'Orban risque de renforcer des tendances racistes dans une partie de la population. Mais je souligne, dans une partie de la population.
Non.
La Hongrie qui est raciste.
Ça, n'empêche que ça, c'est pour, disons, les aspects sociaux, mais que sur le plan politique, rien n'est encore joué, puisqu'il faut, pour que ce référendum soit validé, 50% de participation. Alors j'ai vu un sondage qui donnait pour l'instant 54% de votants acquis, mais c'était seulement un sondage. Est-ce qu'on a des informations supplémentaires? Est-ce que vous pensez qu'il est possible que les 50% ne soient pas acquis dimanche?
Oui, c'est possible. Et je crois que la raison pour laquelle Orban a massivement critiqué le sommet de Bratislava, c'est justement pour garder l'énergie dans le débat à l'intérieur de la Hongrie. Il a d'ailleurs été critiqué par ses amis les plus proches, le gouvernement polonais et puis le gouvernement slovaque, qui ont dit « mais ce sommet a été un succès ». Et Orban, il a dit « non, on n'a rien atteint ». Il n'avait pas d'autre choix, parce que s'il dit maintenant que le sommet de Bratislava est un succès, il n'y aurait plus de raison de faire un référendum. Mais maintenant, il doit chercher à mobiliser la population, et là, il est dans un dilemme. Parce que il mobilise la population, mais avec une rhétorique anti-Bruxelles, anti-EU, donc l'Union européenne. Et avec ça, maintenant, il risque que ses amis, par exemple, au sein des chrétiens démocrates en Allemagne, donc du parti d'Angela Merkel, que eux, ils perdent la patience, parce que en fait, ils rejettent ce discours anti-européen qu'il y a en ce moment à Budapest.
Avec une Allemagne qu'on a vue pourtant assez tempérée, justement, face aux propos ministre luxembourgeois, aussi bien du côté d'Angela Merkel que de Wolfgang Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères. Oui. Et cependant, est-ce que on ne pourrait pas dire que Viktor Orban a obtenu une certaine victoire diplomatique à ce sommet de Bratislava, puisqu'on a vu Martin Schulz exprimer le fait qu'aujourd'hui, la politique des quotas avait été presque un échec finalement. De ce point de vue-là, il a réussi à renverser le point de vue sur cette question des quotas. Échec parce qu'il divise l'Europe, dit-il.
Oui, c'est vrai, parce que mais là, il faut dire que la politique des quotas a aussi un côté pas très réaliste. Parce qu'en fait, c'est très difficile de s'imaginer que par force, on envoie des réfugiés d'Allemagne en Hongrie et qu'on les garde en Hongrie. Ça ne fonctionne que s'il y a un contrôle des frontières très strict pour éviter que ces réfugiés repartent aussitôt en Allemagne. Et d'ailleurs, ce que j'avais dit sur la perte de la patience des partenaires en Allemagne, c'est surtout derrière, c'est pas officiel, c'est dans les contacts, nous suivons beaucoup de contacts entre des parlementaires allemands, par exemple, qui viennent ici à Budapest, qui rencontrent des parlementaires du Fidesz, et c'est dans ces discours-là pas que les partenaires allemands montrent qu'ils perdent la patience. Ce n'est pas à la radio ou à la télévision, et je crois que c'est une très bonne idée de parler avec des partenaires entre deux ou trois personnes, mais pas par la radio comme l'a fait Monsieur Hasselborn.
Et précisément, pour parler encore de ses partenaires et puis de ses voisins immédiats ou presque immédiats de la Hongrie, est-ce que là encore réciproquement, on n'aurait pas un facteur de frein du côté des pays nordiques qui eux se voient empêchés de renvoyer des migrants en Hongrie? Régulièrement, ils se plaignent de ce que le gouvernement leur envoie une sorte de fin de non-recevoir. Il y a même la Suède qui a convoqué l'ambassadrice hongroise pendant cet été. De ce point de vue-là, il y a quand même si la Hongrie entraîne le groupe de Visegrad avec elle aujourd'hui face au quota de migrants, est-ce qu'il n'y a pas le risque de braquer une partie des pays européens complètement?
Alors là, effectivement, je suppose qu'il y aura, après le référendum, une grande dispute entre les pays nordiques et puis peut-être aussi l'Allemagne d'un côté et la Hongrie de l'autre côté. Mais là aussi, il y a maintenant deux côtés. Si on suit la loi, la Hongrie est obligé de reprendre des réfugiés qui ont été registrés en Hongrie. Mais maintenant, l'argument de la Hongrie est que ces réfugiés auraient dû être enregistrés en Grèce et pas en Hongrie. C'est simplement parce que les Grecs n'ont pas fait leur devoir. C'est pour cette raison-là qu'ils ont été enregistrés en Hongrie. Mais les Hongrois disent il n'y a aucune raison que nous, on reprenne maintenant ces réfugiés parce que nous, on a simplement fait ce que les Grecs n'ont pas fait. Alors là, c'est un débat vraiment très compliqué et j'espère qu'on trouvera un compromis sur ce point, déjà pour le climat entre les partenaires européens.
C'est ça. Bon, en tout cas, attendre de ce point de vue-là, le vote de dimanche. Également, d'ailleurs, il y a le scrutin présidentiel en Autriche. On sait que Norbert Hofer avait voulu tenter un rapprochement avec la Hongrie. Et puis, dernière question, il nous reste juste quelques secondes, mais simplement, Viktor Orban joue quoi dimanche? La légitimité de sa politique ou sa place, puisqu'on a vu le Jobbik déjà lui demander de démissionner s'il perdait ce référendum?
Alors ça, effectivement, c'est la grande question, parce que Orban, en fait, il est persuadé qu'il va gagner le référendum. Et d'ailleurs, la question n'est pas s'il le gagne ou s'il le perd. La question, est-ce qu'il va réussir à mobiliser 50% des électeurs? Mais il est certain que Orban, il ne va pas démissionner.
Eh bien, la question est posée, et la certitude aussi. Merci beaucoup, Henrik Hansen, je le rappelle, politologue, professeur à l'université Andrássy en langue allemande de Budapest.
Et merci à vous, Xavier Martinet, pour toute cette semaine passée avec nous dans les petits matins. Lundi, nous retrouvons Thierry Garcin qui se penchera sur le programme économique de Donald Trump. Je précise, en lien avec les enjeux d'aujourd'hui, cette série de deux épisodes des Pieds sur Terre diffusés hier et avant-hier, signés Rémi Douate et Angélique Thibault, sur la Hongrie, le référendum et le mur, deux reportages que vous pouvez réécouter, podcaster sur notre site franceculture.fr à la page de l'émission Les Pieds sur Terre, 6h55 sur France Culture.
J'aurais mieux valu si j'avais su rester de glace, se fondre dans le décor. Moi j'aurais voulu si j'avais pu effacer sa trace et enterrer le corps. Mais dehors il faisait si...
Je fais le mort par Junior sur son disque éponyme sorti au printemps dernier. Le Monde a publié hier une enquête de l'INSEE selon laquelle 14% des sans-abri environ ont suivi des études supérieures. 10% d'entre eux sont diplômés. Recensement effectué il y a 4 ans dans des centres d'hébergement, des lieux de distribution de repas, des banques alimentaires. À cette époque, le nombre de personnes privées d'un domicile personnel était estimé à 143 000, dont 30 000 sans enfants, nous apprend le journal en ligne. Enquête qui nous dit aussi qu'un quart des SDF ont un emploi. Ces autres auteurs, le démographe Philippe Cordazo et le sociologue Nicolas Sambel soulignent, je les cite, que le phénomène de déclassement s'entend et que le diplôme ne protège plus de la précarité. Rien de très nouveau, cela dit, hélas. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Émilie Chaudet, bonjour à tous.
Il est 6h57, tout de suite, votre humeur du jour.
L'humeur du matin, Guillaume Erner.
la bien nommée humeur du matin, parce que vous allez nous donner, Guillaume, une bonne raison supplémentaire de faire la gueule aujourd'hui.
Une obligation même, Émilie, de faire la gueule. Alors, bonne nouvelle, on a trouvé un Français qui voulait sourire. Mauvaise nouvelle, on l'en a empêché. Je vous explique. C'est l'histoire vraie, évidemment, d'un haut fonctionnaire qui a contesté le rejet en préfecture de sa demande de renouvellement de papier d'identité. En raison, quelle raison ? De la mine affichée sur la photo, parce qu'il souriait. Voilà un homme qui ne prend pas le sourire à la légère, un Français. Il s'en est trouvé un qui voulait montrer à la face du monde qu'il n'était pas déprimé et on ne l'a pas laissé. Impossible, lui a rétorqué la cour. Les photos sur les papiers d'identité doivent avoir une expression neutre. Neutre, je traduis, faire la gueule. Un Français sur ses papiers, ça fait la gueule et ça ferme sa gueule. Et après, allez vous étonner que les touristes veuillent aller en Espagne, les migrants en Angleterre et les jeunes en Syrie. Cette obligation de faire la gueule sur les papiers d'identité pourrait même, à terme, poser de vraies difficultés à la médecine moderne, exiger d'inventer quelque chose comme un anti-antidépresseur, un médicament déprimant. Remarquez, ça existe déjà en France, ça s'appelle l'actualité. Ce médicament pourrait être fourni pour tous les étrangers qui souhaitent s'intégrer, ceux qui apprendraient par exemple le slogan du 7-5, lequel est, je vous le rappelle, « J'aime rien, je suis parisien ». L'élégance à la française, visible en ce moment puisque c'est « fashion week », comme on dit en français. Vous êtes mannequin, on vous paye des mille et des plus pour faire le tour d'un podium. Et cependant, vous faites la gueule. Avez-vous déjà vu un mannequin sourire ? Mais que voulez-vous, nous sommes français. Ici, on fait la tronche. C'est pas la faute à Voltaire, c'est celle de Rousseau. Depuis ses confessions, mieux vaut passer pour un idiot que pour un heureux, ou plus exactement, ne pas tomber sous le coup de la formulation idéale de la tautologie. Être un imbécile heureux.
Et même à l'étranger, si vous dites que vous êtes français en souriant, on peut ne pas vous croire pour ça. J'ai déjà fait l'expérience.
C'est vrai.
Merci Guillaume Erner, on vous retrouve dans un instant.
François Angelier, ne souriez pas.
J'ai un souvenir étrange. Je fais une photo d'identité officielle dans un photomaton et la machine me donnait des ordres quasiment et la photo n'a été prise que quand tous les critères étaient présents. C'est-à-dire pas sourire, être bien dans le cadre, avec les lunettes comme ci, comme ça, c'est très impressionnant.
Merci à vous deux et merci Guillaume. On vous retrouve dans un instant, le temps de remercier les chic types des petits matins, François Angelier, Jacques Munier, Xavier Martinet, Toufik Hakem, Midia Portis-Guérin à la réalisation, accompagné à la prise de son ce matin de Dali Yara.
France Culture présente l'exposition Spectaculaire Second Empire 1852-1870. Pour célébrer ses 30 ans à l'automne, le musée d'Orsay se penche sur le Second Empire des spectacles et de la fête. Le parcours thématique où se côtoient peinture, sculpture, photographie, dessins d'architecture, objets d'art et bijoux, brosse le portrait de cette époque brillante et riche en contradictions. Spectaculaire Second Empire, 1852-1870, jusqu'au 15 janvier au musée d'Orsay à Paris. Un partenariat France Culture.
Et tout de suite les matins avec vous Guillaume Erner.